Je suis heureux, reconnaissant de me trouver encore devant vous ce matin. C'est une grâce de plus. Dieu nous prête vie. Amen. Au milieu de ce monde qui va mal, qui est perturbé, au milieu de ce monde où dans certaines régions de ce monde, les gens se lèvent le matin ou s'endorment le soir sans savoir véritablement si ils vont survivre, si ils vont se réveiller le lendemain et que peut-être une partie de leur village, de leur ville ou de leur famille aura été enlevée ou assassinée. Et c'est une grâce de nous retrouver ce matin et je mesure un peu de cette grâce de vous retrouver et de nous trouver ensemble si librement autour de sa parole. Amen. Alors je me réjouis d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. On est dans notre série de messages sur réveiller les héros. Alors ceux qui n'ont pas entendu encore ces messages-là ou qui en ont loupé un ou deux, vous pouvez aller sur le site internet de l'église ery.ch et puis il y a tous les messages qui sont compilés sur la partie média du site internet. Alors vous pourrez vous rattraper si jamais. Alors on a vu une série de personnages. On a vu Joseph, on a vu Priscille Aquilas, on a vu Noé. Et ce matin, j'aimerais vous apporter une femme, une héroïne. Et les femmes disent amen. J'aimerais vous raconter l'histoire de Esther. J'aimerais vous raconter l'histoire d'Esther, vous la connaissez bien, mais je vais faire version Mathieu Bléry. Alors c'est basé sur la parole de Dieu, et bien évidemment, mais je vais vous la raconter un peu, de temps en temps je citerai un verset, mais ça se passe, cette histoire se passe au temps du royaume d'Assyrie. Au temps du royaume d'Assyrie, après le royaume babylonien, du temps de la déportation du peuple d'Israël, pendant ces 70 ans où ils ont été déportés à Babylone, et Babylone a été après envahie par les Assyriens, les Mèdes et les Perses. Et le peuple d'Israël était en exil durant cette période à cause de son péché. Et durant cette période, le roi en place, durant l'histoire d'Esther, le roi en place s'appelait Assuérus. Et il avait pour femme une femme qui s'appelait Vashti. Et cette femme était la reine, était la principale femme du roi. Et alors que le roi décida un jour de réunir les princes de son royaume, il avait envie de faire une grande fête. Il avait envie de se réjouir. À cette époque-là, les fêtes, quand on voulait fêter, c'était pas juste viens chez moi ce soir, on va manger des pop-corn, on va regarder la télé. C'était des grandes fêtes. Ça se passait sur plusieurs jours, sur une semaine, voire plusieurs semaines. Et c'était une de ces fêtes-là que le roi Assuérus avait mis en place pour se réjouir de tout son immense royaume. C'était la Syrie était le royaume de l'époque le plus puissant sur la terre. Et ils avaient envahi une grande partie de ce monde-là et il gouvernait tout ça, le roi Assuérus. Alors la fête devait être somptueuse, incroyable, et il dit un soir, certainement avec autour d'un banquet magnifique, bien arrosé, etc., il dit j'aimerais vous montrer ma femme. Et la Bible nous dit qu'elle était d'une grande beauté, Vashti. Alors il l'a fait chercher, il envoie ses serviteurs pour aller la chercher, et la reine dit non. Eh oh, l'émancipation de la femme, tout ça, tu connais Assuérus un petit peu, tu me parles pas comme ça. Elle dit non. Alors, le roi se trouve dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais avec ça? À cette époque-là, une femme ne disait pas non à son mari, encore moins la femme du roi le plus puissant de l'époque, à son roi de mari. Certainement pas. Alors, il y a ces princes qui sont là autour de lui, puis il doit être un peu mal avec ça, il leur demande conseil. Qu'est-ce que je devrais faire, les gars? Et il y en a un qui lui dit, écoute, il devait certainement penser à lui, à sa propre femme à la maison. Il dit, écoute, on a un petit peu mal. Si tu fais rien, toutes les femmes du royaume vont se mettre à se rebeller contre leur mari. Il faut que tu montres un signe fort. Sinon, on est mal, et moi aussi. J'ai pas envie de rentrer ce soir à la maison. Et puis ma femme dit donc, la reine, la number one là, dans le royaume, hein. Elle a tenu tête à son mari. Regarde un peu, tu vas faire à manger ce soir tout seul, hein. Il était un peu comme ça. Alors, il a dit à Assuérus, là, il faut faire un signe fort, là. Faut faire un signe fort pour que toutes les femmes du royaume voient qu'on fait pas n'importe quoi avec son mari, là. Oh. Alors, il a écouté ce conseil. Et il a rejeté la reine. Il l'a rejeté, la reine Vashti, il a dit, je vais plus jamais la voir. Fini, terminé. Elle a été rejetée, elle a été répudiée. Alors, dans les temps qui ont suivi, Assuérus s'est dit, mais je peux pas rester tout seul en même temps. Hein? Quand même, quelle solitude horrible je vais vivre. Si j'ai pas de reine, si j'ai pas une principale à côté de moi. Alors, il va envoyer des serviteurs dans tout son royaume, nous dit la Bible. Dans tout son royaume pour aller quêter, pour aller chercher, pour aller chasser, pour aller voir s'il trouve une belle femme. Les belles femmes, les plus belles jeunes filles vierges du royaume, ils les ont fait venir et dans le lot, il y avait une femme nommée Esther. Hadassa, en hébreu. Esther, c'était son nom. Mède-Perse. Elle était dans le lot et le roi est véritablement tombé amoureux d'elle. Il lui a eu un coup de foudre, il l'a trouvé tellement, il y avait quelque chose sur cette femme. Et tout de suite, il l'a pris comme sa femme, comme la reine, elle est devenue la reine. Alors bien sûr, c'était pas comme aujourd'hui, il y avait des harems, il y avait des concubines, il y avait toutes sortes de c'était quelque chose d'assez impressionnant, mais Esther, c'était celle qui chérissait sur son cœur. Il en avait assez de femmes pour en rencontrer une chaque jour, chaque soir, et puis pas les revoir avant des années. Et pourtant Esther, lui, il la voyait régulièrement. Il la convoquait régulièrement. Il l'aimait de tout son cœur. À cette époque, on pouvait pas se présenter dans la présence du roi sans avoir une autorisation spéciale ou que le roi lui-même et demander à voir la personne. Sinon, la personne était punie de mort. Waouh. Et si le roi tendait son sceptre, alors c'était qu'il lui faisait grâce et qu'il ne la mettrait pas à mort, cette personne-là. Alors Esther, elle était sa préférée, mais elle avait en même temps pas tant de pouvoir que ça. Pas tant d'influence que ça, finalement. La Bible nous dit qu'Esther, elle était orpheline. Qu'elle avait plus de papa, plus de maman. Et c'était son oncle Mardochée qui l'avait adopté littéralement. Et il l'avait pris sous son aile et il la considérait comme sa propre fille. Esther était donc juive. La Bible nous dit qu'elle était d'une grande beauté, d'une immense beauté. Mais il est dit aussi que sous les conseils de Mardochée, son oncle, elle cacha son origine juive au roi Assuérus. Surtout pas savoir. Déjà qu'on est déporté, déjà qu'on est un peuple exilé, déjà qu'on n'est plus dans notre propre pays, faut pas qu'on fasse de remous, faut pas trop qu'on fasse de foin. Il serait bien senti en Suisse, lui. Tiens. Et donc, surtout faire doucement, surtout pas se faire remarquer, surtout. Et alors, Esther était très respectueuse de son oncle, elle l'avait écouté et elle avait mis en pratique point par point tout ce qu'il lui disait. Elle avait caché ses origines juives à assurer. Et un jour, alors que Mardochée se tenait à la porte du palais de la ville de Suse, il est là et il entend dire que deux serviteurs, deux eunuques qui travaillaient au service du roi Assuérus préparaient, étaient en train de fomenter un froment ou foment. Parce que le froment c'est un pinot. Ok, je suis content de t'avoir, Pinot, ici, tout près. Un ingénieur agronome, c'est toujours utile quand on pas dire de bêtises. Fomenter. Ils étaient en train de fomenter. Je suis assez content de ce mot. Hein? Donc, ils étaient en train de fomenter un coup d'État. Ils étaient en train de préparer un coup d'État, nous dit la Bible. Ils voulaient frapper le roi Assuérus, littéralement. Et alors, on voit ça dans Esther chapitre 2 verset 21, Mardochée était donc assis à la porte du roi et Bigtan et Teresh. Ça c'est des noms de c'est des noms de gars qui fomentent un coup d'état ça, hein? D'accord? Et deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée eurent un mouvement d'irritation et cherchaient à porter la main contre le roi Assuérus. Et Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée, confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Ça a été écrit dans les registres du royaume et cela fut oublié. Et pendant ce temps, un homme du nom d'Aman, Aman a été nommé le bras droit, le premier ministre, celui qui avait le plus d'influence après le roi Assuérus dans le royaume. Il a été nommé, il a gradé, il a pris, il est devenu puissant. C'était un homme, Aman, c'était un homme de pouvoir. C'était un homme qui était imbu de lui-même. Et il était prêt à tout pour gravir les échelons. Il était tellement orgueilleux, il était tellement vaniteux, cet homme-là, Aman, qu'il exigeait qu'on se prosterne devant lui lorsqu'il passait dans la rue. T'imagines ? Marcher dans la rue et les gens, ruf, 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 au fur et à mesure, ruf, ruf, tu sors de ta porte, tu vois Aman, ruf, tu te penches par terre. C'était comme ça. Il exigeait cela. Et son poste, sa position de pouvoir lui permettait d'exiger cela. Et Mardoché, lui, avait décidé de ne pas se prosterner. Il avait décidé de ne pas se prosterner. Et alors imaginez-vous, lorsque dans une foule, que tu marches dans la rue, et que dans une foule, imaginez Aman qui passe ici, et qui marche dans une rue, tout le monde s'incline. S'il y en a un qui reste debout, tout le monde le voit. Hein? Quel courage! Quel courage ce Mardoché! À chaque fois qu'il était dans la rue, tout le monde se prosternait, lui restait debout, tout le monde le voyait, Aman le voyait. Tout le monde le voyait. Il a eu ce courage-là. Non, je ne m'inclinerai pas devant cet homme. Alors, Aman se mit évidemment en colère. Il se mit à haïr Mardoché, mais aussi le peuple juif par la même occasion. Par extension. Alors il va monter un plan machiavélique pour exterminer Mardoché et tout son peuple, tout le peuple juif. Il va se présenter devant le roi Assuérus et il va lui faire part du fait qu'il y a un peuple dans le royaume qui est rebelle. Un peuple dans le royaume qui veut pas se soumettre au roi, qui veut pas se soumettre à nos lois, qui veut pas se soumettre à nos coutumes. Et il va demander au roi que le roi lui donne l'autorisation de s'occuper de cette situation. Alors le roi Assuérus, certainement, qui devait avoir tellement d'autres choses à faire dans son immense royaume avec ses immenses harems, etc. Alors il y a dit, vas-y, fais carte blanche, hop, il lui a donné sa bague sur laquelle il avait un sceau, sur lequel on pouvait mettre ce sceau qui était le sceau du roi, et il l'a donné à Aman. Et Aman, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce pouvoir que le roi Assuérus, ce pouvoir sans limite que le roi Assuérus, carte blanche, lui avait donné, et il va prendre ce sceau-là, et il va écrire une lettre qui va partir dans tout le royaume, et avec le sceau du roi que lui-même avait mis, en disant à telle date, pour que tout le monde qui n'est pas juif le sache dans le royaume, à telle date, votre voisin qui est juif, c'est la personne que vous connaissez qui est juif dans votre entourage, à telle date, vous aurez l'autorisation à telle date de les exterminer. Comme ça, dans tout le royaume, il s'assurait que le peuple juif allait être détruit au complet. Imaginez-vous. C'était pas seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, à cette époque-là, un génocide se préparait contre le peuple de Dieu, contre le peuple juif. Alors, où en suis-je? Lorsque Mardoché va apprendre ça, branle-bas de combat, comment ça? Notre peuple va être exterminé, nous, moi, tout le peuple de Dieu va être exterminé. Déjà qu'on a été déporté, déjà qu'on n'est plus sur notre terre, on va en plus être exterminé. Alors, il va aller vers Esther, il dit: Esther, faut faire quelque chose, toi t'as accès un peu au roi, vas-y. Va vers lui, va lui parler. Alors Esther, la première chose qu'elle va faire, c'est pas tout de suite aller vers le roi. La première chose qu'elle va faire, elle va répondre à Mardoché puis elle va dire: regarde, va faire cela. Regarde ce que tu vas faire. Réunis le plus de juifs possible et tu vas leur dire de mener un jeûne et une prière. Là, le jeûne à la prière. et qu'ils se mettent à jeûner, qu'ils se mettent à prier, pour crier à Dieu, pour qu'il se passe quelque chose, pour que je puisse être inspiré, savoir quoi faire, comment influencer le roi. Moi qui sais que dans la loi, je peux pas me présenter à lui, comme ça, sans qu'il m'ait convoqué. Alors c'est ce que Mardoché va faire. Il va demander au peuple de se mettre à jeûner, à prier, à crier à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez, je vous demande pas une réponse, est-ce que vous avez une hygiène de vie, de jeûne et prière dans votre vie? Nous en avons besoin, on le met en place une fois par année. Et c'est tellement bon d'avoir vu au fil des années des frères et des sœurs qui n'avaient jamais jeûné avant cela, se mettre en route dans leur vie, se rendre compte que c'était possible aussi pour eux. Et que c'était quelque chose qui était précieux sur le cœur de Dieu. De sacrifier de temps en temps un repas pour, à moins que médicalement ce ne soit pas possible, mais sacrifier un repas de temps en temps pour s'approcher de Dieu. Pour crier à lui pour une situation, pour plus de lui dans ma vie. Pour faire échec à notre chair. Aussi par la même occasion. Le peuple d'Israël l'a fait à ce moment-là. Alors Esther va, malgré cela, se dire, il faut que j'aille plus loin. Et elle va braver la mort en se présentant devant le roi Assuérus. Et lorsqu'elle se présente devant lui, certainement qu'elle a dû se dire peut-être que ma dernière heure est arrivée. Et elle a dû l'envisager, c'est sûr et certain. Et alors qu'elle se présente devant lui, le roi Assuérus tout de suite lui présente son sceptre. Je te sauve. Je sauve ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais me demander? Alors la reine Esther va lui dire, j'aimerais préparer un banquet pour toi, ô mon roi. Et aussi, si tu peux inviter Aman, ce serait super. Alors je vais le préparer, puis venez ce soir, et puis je préparerai un banquet pour vous. Alors le roi se dit, merveilleux, magnifique, je vais venir à ton banquet. Et il en avertit Aman. Et plein de vanité, Aman pense que la reine et le roi veulent l'honorer. Waouh ! Convoqué par le roi et la reine, ça rigole plus là. Je suis dans la cour des grands là. Hein ? Enfin, j'ai commencé en bas de l'échelle là. Là, je suis un peu en haut là. Ils vont m'honorer. Et ce soir-là, alors que le banquet est là, le roi regarde la reine Esther avec des yeux pleins de points d'interrogation. C'est quoi ta demande? Qu'est-ce que tu veux me demander? Si tu le veux, il va lui dire, si tu le veux, là, je t'aime tellement, si tu veux, je te donne la moitié de mon royaume, je te le donne, si tu me le demandes maintenant. Waouh! La moitié du royaume le plus puissant de l'époque, il était prêt à la lui donner, à le lui donner à Esther. Et elle va dire, je vais pas te dire tout de suite, regarde, demain, je refais un banquet, et puis reviens demain à ce banquet-là avec Aman et je te dirai ce que je veux te demander. Elle est revenue le lendemain et le lendemain elle lui dit, je te refais un banquet demain, reviens. Non, c'est pas vrai. Non. C'est comme les poupées russes, tu t'ouvres, il y en a toujours une dedans, ça s'arrête jamais. Non. Il dit, je te reconvoque demain, deuxième soir. Alors Aman ce soir-là, et là c'est un passage important. Alors Aman ce soir-là, après le premier banquet, il rentre chez lui. Et il va croiser Mardoché dans la rue, en rentrant chez lui. T'imagines, un but de lui-même, je sors d'un banquet du roi. Oh, qu'est-ce qu'on a mangé, du caviar, du foie gras, des pavés de Rossini, etc. C'était magnifique. Et il rentre, il est tellement un but de lui-même, et il passe, et les gens, raf, 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 Mardoché, hop, il bouge pas. Et il va se mettre en colère, il va rentrer chez lui, il va même pas dormir de la nuit. La Bible nous dit que son esprit n'était pas reposé tant qu'il n'avait pas trouvé une solution pour mettre à mort ce Mardoché. Alors il en parle à sa femme, chez lui à la maison, et sa femme lui dit, pas se prendre la tête, monte une potence dans la cour, et puis hop, tu vas aller vers le roi, lui demander une petite autorisation vite fait, il va te la donner, rac, Mardoché, on va le pendre sur cette potence dans notre cour. Cette nuit même, avec ses serviteurs, il monte une potence immense dans sa cour, chez lui, Aman. Et il part, il s'en va, au même moment, pendant ce temps-là, quelle histoire extraordinaire, pendant ce temps-là, au même moment, le roi Assuérus, qui d'habitude dort, comme un seigneur, comme un roi d'Assyrie. Il n'arrive pas à trouver le sommeil cette nuit-là. Il est chez lui à la maison, il essaye de compter les moutons, ça ne marche pas. Et il est chez lui, il est dans son lit, il s'endort pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il convoque ses serviteurs, il leur dit, allez, faites-moi, lisez-moi un petit peu les archives, lisez-moi un petit peu toutes les chroniques de ce qui s'est passé ces dernières années. Il se dit, ça va être tellement barbant, là, je vais m'endormir, tu vas voir comment, quoi. Et puis, il est là, j'imagine, il est là dans son lit avec son gros duvet royal, etc., ses gros coussins royaux, plein de soie, etc. Hein, ça, la panse remplie encore du banquet monstrueux qu'il vient de faire. Et les gens sont là, les serviteurs, ils sont fatigués, ils sont là, j'ai juste envie de dormir. Et puis, ils lui lisent les chroniques, etc. Puis ils arrivent sur l'histoire un jour, ils commencent à lire, un jour, un homme du nom de Mardochée est venu se présenter devant, dans le palais, en nous avertissant que des eunuques, des gens au service du roi étaient en train de préparer un coup d'état, etc. Et Assuérus se remémore cette histoire. Il dit, mais c'est vrai. Et lorsque l'histoire se termine, il pose la question à ses serviteurs, est-ce qu'on a récompensé cet homme? Est-ce qu'on a récompensé Mardochée pour ça? Et les serviteurs disent, non, on n'a rien fait. Oups, on a oublié. Et à ce moment-là, le roi entend quelqu'un dans la cour. Tiens, quelqu'un est dans la cour. Aman, viens seulement. Aman venait pour lui demander l'autorisation de mettre à mort Mardochée. Et le roi Assuérus le laisse pas commencer. Lui dit, il devait être tout excité par cette histoire là. Il avait plus du tout envie de dormir. Et il est là. Il lui dit, écoute Mardochée, dis-moi, si je devais honorer un homme dans mon royaume pour ce qu'il a fait de magnifique, comment est-ce que je devrais l'honorer? Et là, Aman tixe. Un échelon de plus, mon Aman, quand tu vas rentrer dire ça à chérie à la maison, tu vas voir comment ça va être bien. Alors, il tourne ça dans sa tête, il se dit le maximum, je vais lui demander le maximum. Alors, il se dit, comment je vais faire pour... Il veut m'honorer. Alors, il commence, il dit, alors écoute, premièrement, il faudrait que tu donnes à cet homme-là que tu aimerais honorer un vêtement à toi, un vêtement royal, ton vêtement à toi que tu portes. Waouh, quelle audace! Quelle audace, c'est incroyable. Et puis, ce serait super que tu le fasses monter sur ton cheval royal, hein, sur ta monture royale, et tu lui mets ta couronne royale sur la tête. Et puis, il faudrait que tu le prennes, et puis qu'on le balade dans les places de la ville, à Suse. Tu le balades un peu partout avec le cheval, et puis que les gens qui le promènent crient, voilà ce qu'on fait aux hommes que le roi veut honorer. Voilà comment nous traitons les hommes que le roi aimerait honorer. Fais ça, cet homme-là. Il se voyait déjà. Il rêvait. Il était déjà dans sa famille. Il se voyait sur le cheval, recling, recling, avec sa couronne et son manteau qui traînait, les gens qui criaient autour. Déjà qui se prosternaient devant lui. Là, carrément, là, waouh, l'honneur incroyable. Et il est là, il y a comme une pause qui se passe. Et le roi lui dit, génial ton idée. Alors regarde ce que tu vas faire. Tu vas t'en occuper personnellement. Là, maintenant, là, tu vas aller chez Mardochée. Tu vas aller chez Mardochée. Et puis tu vas prendre Mardochée. Tu vas, attends, j'enlève mon manteau. Tiens. Attends, tu vas lui mettre mon manteau. C'était un manteau un peu plus beau que mon truc d'H&M, mais tu vas lui mettre mon manteau et regarde ma couronne, elle est là dans le vaisselier en vert, là, regarde, hop, on va prendre la couronne, tac, tu vas lui mettre la couronne et puis tu vas chercher mon plus beau destrier, tu vas le monter dessus et toi-même, Aman, tu vas crier devant, tu vas le balader dans la rue et toi-même tu vas crier, oh voici ce que l'on fait à l'homme que le roi aimerait honorer, voici, et c'est ça qui s'est passé, mon Mardochée, lui, il devait pas le faire le fier, il devait être là avec sa couronne sur son cheval, Gatling. Et puis Aman qui devait, imaginez-vous la tronche de la femme d'Aman, quand elle a entendu la voix de son mari par la fenêtre. C'est mon mari que j'entends crier. Elle ouvre la fenêtre, elle regarde par la fenêtre. Aman qui se balade en train de, voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Incroyable. Quelle histoire fabuleuse. C'est juste fou comment Dieu fait les choses. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Chaque instant, chaque moment, même si parfois nous, le temps nous paraît long avant que Dieu réponde à une prière, il n'y a pas de retard dans le temps de Dieu. Ouh, j'étais au taquet, Pascal, hein. Ce matin, il m'a demandé, tu vas être au taquet comme la dernière fois ou pas? J'ai dit, je sais pas, je me sens assez calme ce matin, mais des fois, les eaux dormantes, il faut se méfier. Alors, quelle histoire extraordinaire! Alors, il va se promener comme ça dans la ville de Suse, avec Mardochée sur le cheval. J'en suis où? Voilà, j'y suis. Voilà. Et, ah ben bien sûr, ça se passe là. Mais le soir, il y a encore le banquet, c'est pas terminé. Le soir, il y a le deuxième banquet. Alors, Mardoché, Aman, il a dû rentrer chez lui à la maison. Et quelle ambiance en rentrant à la maison, la tête de sa femme, t'imagines. Mais c'est pas fini. Aman, il aurait pu se consoler peut-être en se disant ce soir-là que c'est pas grave, ok, c'est arrivé ça, un peu la honte et tout ça, mais c'est pas grave, j'ai quand même un deuxième banquet, je suis pas n'importe qui là, tu sais. Je vais quand même retourner de banquet du roi ce soir, la reine, etc. Ça va être sympa, etc. Peut-être qu'il s'est consolé avec cette pensée-là. Et justement, ce soir-là, à la table du roi et de la reine, Aman entend à nouveau Assuérus poser la question à Esther, sa reine. C'est quoi alors ta demande? Qu'est-ce que c'est que ta demande? Alors Esther va lui répondre ceci. On trouve ça dans Esther chapitre 7 verset 3. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande. Tu dis, comment ça, accorde-moi la vie sauve? Mais qui te menace? Qui pourrait te tuer? Qui voudrait te tuer? Il a dû se dire, alors voici ma demande. Alors là, elle va lui révéler ses origines juives parce qu'il ne le savait pas. Voilà. Donc, elle devrait mourir, puisqu'il y avait un édit qui avait été mis par Aman avec le sceau du roi qui disait que tous les juifs devaient mourir à telle date. Donc, c'est pour ça qu'elle lui dit, je vais mourir aussi. Sauve mon peuple, elle lui dit, voilà mon désir. Verset 4, en effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, mais qui est-il et où est-il celui qui a projeté d'agir de cette manière? Esther répondit, l'homme qui est notre adversaire, c'est notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici, regarde-le à la table, c'est lui. Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Et la Bible nous dit, si on lit la suite de l'histoire, vous relirez ça chez vous à la maison, la Bible dit le roi rentra dans une telle colère qu'il est parti dans son jardin immense, il est allé se perdre dans son jardin immense, rempli de colère. Et à ce moment-là, Aman, il s'est jeté vers la reine, il s'est jeté presque littéralement sur elle. Je t'en supplie, non, je t'en supplie. Et le roi, quand il rentre, il revient, il s'est un peu calmé, il rentre, il voit Aman qui est à moitié affalé sur la reine. Oh non, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Ça va pas, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment ça que la Bible nous dit, vous lirez ça chez vous à la main. C'est un peu une version Mathieu Bléry, mais c'est exactement ça qui dit, ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais avec ma reine? Un peu de tenue! Il était tellement, là, il dit, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il a demandé à ses serviteurs de se saisir d'Aman, et les serviteurs lui disent, ben justement, tu sais, Aman dans sa cour, là, il a monté un grand poteau, là. Il a une grande potence. Ah ben c'est parfait. On va le pendre dessus. Et c'est comme ça qu'Aman a terminé sa vie. Et le roi va prendre la maison d'Aman, il va la donner à Esther, à Mardoché. Mardoché va pouvoir voir la main de Dieu tout à coup s'ouvrir pour lui alors que la situation était une situation catastrophique. Alors je m'arrête là, vous relirez tout et tous les détails dans le livre d'Esther, dans la parole de Dieu. Elle est tellement riche la parole de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? C'est tellement passionnant la parole de Dieu, elle est merveilleuse. J'aimerais vous laisser deux points. Premièrement, les standards de nos vies. Avez-vous déjà eu l'impression, parfois, dans le cheminement de nos vies personnelles, que les sacrifices d'une vie qu'on fait pour Dieu ne portent pas toujours du fruit comme on aimerait, parfois même pas vraiment, que même parfois on les voit pas? Ça vous est déjà arrivé? Ah, je suis tout seul, c'est pas grave. Mardoché a vécu ça aussi, je me sens pas tout seul. Mardoché a vécu ça aussi. Lui qui a dénoncé le complot des eunuques qui voulaient renverser le roi Assuérus et que rien ne lui a été fait en retour. Pas un merci. Pas une marque de reconnaissance. Rien du tout. Niette. Comment aurais-je réagi? Comment aurais-tu réagi? Et pourtant, des années plus tard, alors qu'Assuérus était en train de lire ses fameux registres historiques, ses chroniques, il a vu le geste de Mardoché et il va le récompenser. Et ce temps pour le récompenser était le temps parfait. C'était le temps de Dieu. Même si, peut-être à Mardoché, ça lui a paru long. Je ne sais pas comment il a vécu ça. Mais si Assuérus avait récompensé Mardoché sur le moment, il aurait bénéficié d'une gloire momentanée, ça aurait été bien. Mais même si la récompense a tardé, elle est venue au moment parfait, au moment opportun, au bon moment. Le moment où Aman était sur le point d'assassiner Mardoché et de commettre un génocide avec le peuple juif en exil. C'est vrai que le fait qu'on soit des enfants de Dieu, qu'on ait découvert le salut merveilleux en Jésus, nous donne de ne plus vivre comme avant. C'est vrai. De plus vivre comme le monde nous le montre. De plus vivre selon les standards du monde. Et j'ai remarqué dans ma vie, après des années de vie chrétienne, et aussi après le suivi de centaines de chrétiens à travers les années, que les standards chrétiens peuvent, avec le temps, dans certains moments de nos vies, devenir lourds parfois. C'est comme si on avait tendance à ne voir plus que les obligations chrétiennes. C'est les trucs à faire, les standards de vie du royaume de Dieu, les sacrifices à faire, les renoncements, etc. Je ne peux plus faire comme le monde. Et l'ennemi sait tellement bien utiliser cela. Tellement subtilement. Et on se prend si souvent les pieds dedans. Nous donner l'impression que la vie est tellement mieux dans le monde. Nous pousser à regretter l'Égypte, notre ancienne vie. La vie où on pouvait choisir librement le Dieu qu'on voulait suivre, qu'on voulait adorer. Et le panthéon égyptien était très 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 vaste. Et le panthéon des dieux aujourd'hui qu'on peut se faire est tellement plus vaste encore. Et aujourd'hui, l'ennemi encore, il opère de la même manière. Il tente de nous faire envie avec les soi-disant libertés qu'on a perdues. Mais il omet de dire l'essentiel, évidemment, c'est un menteur. C'est que le peuple était esclave en Égypte. Maltraité, fouetté, opprimé, asservi. J'aimerais dire ce matin à chacun d'entre nous, mon frère, ma sœur, que lorsque tu choisis de ne pas baisser tes standards chrétiens parce que tu aimes ton Dieu et que tu désires marcher dans ses voies, lui ressembler, tu es totalement dans le plan de Dieu. Lorsque tu choisis de détourner les yeux de ces choses sensuelles, malsaines que le monde nous présente si souvent, lorsque tu choisis de ne pas te venger de cette personne qui t'a fait tant de mal, alors que tu pourrais tout à fait, que tu en aurais les moyens aujourd'hui. Lorsque tu choisis de bénir au lieu de maudire, de bénir au lieu de critiquer, de juger, de médire. Lorsque tu choisis de ne pas t'enrichir malhonnêtement, alors que tu le pourrais très bien. Lorsque tu choisis de ne pas mentir à ton travail. Lorsque tu choisis de te garder pur pour ton conjoint que Dieu a prévu pour toi. Lorsque vous choisissez de vous battre pour votre couple au milieu d'un monde qui baisse si souvent les bras. Lorsqu'une jeune fille choisit la vie en gardant son bébé, on pourrait faire la liste longue, longue encore. Ça réjouit le cœur de Dieu. Lorsque comme Esther, comme Mardoché, on choisit de garder les standards de Dieu, les standards de la parole de Dieu, les standards des principes du royaume de Dieu, bien haut dans notre vie. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit son cœur au plus haut point. Mais plus que cela encore, plus loin que ça encore. Si le geste de Mardoché a été consigné, nous dit la Bible, on l'a lu tout à l'heure, dans les registres des annales, des chroniques du royaume assyrien, j'aimerais te dire ce matin, que chaque fois que tu t'es tenu juste devant Dieu, que tu as gardé ces standards-là, peut-être même parfois au prix de moquerie ou d'incompréhension autour de toi, eh bien j'aimerais te dire, à chaque fois que tu choisis de ne pas faire comme le monde, de ne pas agir comme le monde, de ne pas te laisser influencer par le monde, c'est écrit, Dieu l'écrit dans ses annales du registre divin, du registre céleste, Dieu l'écrit, Dieu le voit, tout est consigné. Tout est consigné là-haut. Il s'en rappelle mieux que quiconque. Pas de danger que ce soit oublié. Comme Assuérus l'a fait, non. Il voit ta vie. Il voit ta vie. Il voit le désir que tu as de garder ta vie dans les principes de Dieu, de sa parole, de ne pas baisser tes standards. Il ne manquera pas de te bénir, de te garder pour cela. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, la liste des héros. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hallelujah. Dieu se réjouit de nous récompenser quand on cherche à se garder les standards de Dieu dans nos vies. Deuxièmement, là où Dieu t'a placé. Là où Dieu t'a placé. J'aime Esther chapitre 4 verset 13. C'est Mardoché qui parle à Esther au moment où elle apprend, où il lui apprend que Aman a fait paraître un édit pour tuer tous les juifs du royaume. Il est en train de lui parler, il lui dit, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Hein? Alors? Au contraire de tous les juifs, non? En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les juifs. Tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait pour une interrogation? Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. J'aime ça. J'aime cet esprit de Mardoché. Qui sait, Esther? Peut-être que c'est justement pour une situation comme ça que tu t'as placé là. Là où Dieu nous a placés. Parfois, on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour Dieu? Dans quelle mesure est-ce que ma vie fait la différence? Pourquoi est-ce que je suis là où je suis? Esther a dû se poser ces questions-là. Esther, elle a dû se les poser ces questions. Pourquoi est-ce que j'ai perdu mes parents? Pourquoi me retrouver orpheline? Pourquoi me retrouver dans un harem tout à coup, à devenir la femme d'un roi que je connais même pas? Qu'on est venu me chercher dans ma campagne, là où j'étais? Pourquoi devoir être arraché maintenant de nouveau de ma famille, la famille de mon oncle qui m'a tout donné, qui m'a tout appris, déjà que j'ai perdu mes parents, maintenant on m'arrache la famille de mon oncle pour me donner comme dans un harem, pour me donner un roi? Pourquoi est-ce que mon peuple doit vivre un génocide alors qu'ils n'ont rien fait de mal? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois risquer ma vie en me présentant devant le roi? Pourquoi? Et pourquoi je les connais, mon pauvre ami? Alors ce mot-là, je le connais. Hein? On le connaît. Mardoché, lui, il avait compris que les circonstances de nos vies ne sont pas des hasards, que Dieu est en contrôle de tout, et que si Esther en était arrivée là, c'était dans les plans de Dieu. Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenue à la royauté, Esther. J'aimerais te dire ce matin, peu importe qui tu es, que là où Dieu t'a placé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Qui sait, comme dit Mardoché, qui sait? Tu as peut-être un rôle à jouer dans le plan de Dieu pour faire triompher son nom là où tu es, pour faire briller son amour, pour faire une différence là où il t'a placé. Je me rappelle Nicole, ma chère Nicole, alors que avant qu'on parte nous former à l'école biblique, c'était juste après notre mariage, entre 97 et 99, 97 et 99, pour les Français qui sont là. Et je suis gentil, je pense à eux. Et ça faisait des années déjà qu'elle travaillait chez Nestlé. Et je me rappelle qu'au début de notre mariage, elle comprenait pas. Elle était jeune chrétienne depuis peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça, hein, Nicole. Et elle comprenait pas. Elle avait tellement envie de servir Dieu. Elle avait tellement découvert l'amour de Dieu. Elle comprenait pas pourquoi elle était obligée de rester là des journées enfermées dans un bureau derrière un ordinateur à remplir des commandes alors qu'elle avait tellement envie de servir son Dieu, de parler de lui, de gagner des âmes, etc. Et je me rappelle qu'un jour, elle était en train de prier. Et dans son temps de prière, Dieu est venu se révéler à elle et l'a compris. C'est comme une illumination. Quand Dieu vient se révéler à nous, tout à coup, c'est comme une lampe qui s'allume au milieu des ténèbres. Bing, tilt, tout à coup. Et elle a tout à coup saisi, il y a comme un déclic qui s'est fait. Dieu lui a dit que c'était cet endroit qui était sa terre de mission. Là maintenant, que d'autres choses arriveraient plus tard après, mais que c'était pour un but précis qu'elle était là maintenant et que c'était lui qui l'avait placée là. Alors tout à coup, elle s'est mise à, c'est comme si des anciennes lunettes étaient parties, puis crac, elle a mis les lunettes de Dieu. Tout à coup, elle a commencé à voir les choses différemment. Elle a commencé à voir les circonstances différemment. Elle a commencé à concevoir différemment le réveil qui sonnait le matin. Et puis elle a commencé à se dire, mais Seigneur, alors si j'ai une mission ici, Seigneur, utilise-moi, etc. Et elle a commencé à être un témoin vivant à cet endroit où elle était, sans être assistante, mais elle témoignait de cet amour de Dieu autour d'elle. Et les collègues ont commencé au départ avec des yeux un peu, voilà, ils ont commencé à venir se confier en elle. Ils venaient quand ils avaient un défi, un souci, ils venaient parler vers elle, à lui demander de prier pour leur situation, pour eux. Et un jour, un membre de la direction la convoque dans son bureau. On se dit toujours qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là. Et elle la convoque dans son bureau, lui demande de fermer la porte. Elle se dit aïe aïe aïe, ça c'est mauvais signe. Et puis alors qu'elle ferme la porte, elle s'assied devant lui, il se met à pleurer devant elle. Il pleure à chaudes larmes. Et puis il a commencé à lui raconter sa vie, les difficultés et les épreuves dans lesquelles ils étaient en train de passer à ce moment-là. Elle a pu prier pour lui, elle a pu prier avec lui. Imaginez-vous. Dieu sème des choses qu'on peut pas s'imaginer. Des collègues se sont tournés vers le Seigneur autour d'elle. Et puis c'était la mission que Dieu lui avait confiée là où elle était, à ce moment-là. Et lorsqu'elle est partie de son travail, ses collègues lui ont dit par la suite que l'ambiance n'avait plus rien à voir. Je dis pas ça parce qu'on se sent bien dans la présence de Nicole, moi je suis très, etc. Mais je sais que c'est Dieu. C'est ce Dieu merveilleux, extraordinaire, magnifique, immense et plein d'amour, de compassion. Chaque jour et chaque matin qui se renouvelle, qui était là dans sa vie. Et alors qu'elle avait compris, saisi que c'était sa mission d'être là et de se laisser disponible entre les mains de Dieu là où elle était, même si ça ne lui faisait pas un grand plaisir d'être là, pas un grain. Eh bien, Dieu a pu utiliser cela et ça fait toute la différence. Et quand on n'est plus là, on se rend compte, ça fait toute la différence. C'est Dieu dans nos vies. C'est Dieu dans ta vie là où il t'a placé. Alléluia. Et si Dieu t'avait placé là où tu es en ce moment pour un but précis, pour l'interrogation. Alors je ne parle pas parfois, il y a des circonstances qui font qu'on doit quitter un emploi, qu'on doit déménager, etc. Mais si ce matin, on laissait la pensée de Dieu nous envahir, cette pensée qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Qui sont appelés selon son dessein. Et au milieu de chacune de nos situations, au milieu de ce que nous vivons, que là où nous sommes aujourd'hui, Dieu sait ce qu'il fait et pourquoi il t'a placé là. Et s'il désirait, pour une interrogation, et s'il désirait, toi aussi t'utiliser pour faire une différence dans le milieu où il t'a placé, une mission à accomplir. Comme Esther en avait une, et qu'elle a relevé ce défi héroïquement. Souvent cette pensée m'a fait jubiler. Souvent, cette pensée m'a fait jubiler. Cette pensée que chaque croyant est une lumière dans des milieux tellement différents. Chacun d'entre nous. Dans des milieux tellement différents, jour après jour, semaine après semaine. J'aime cette pensée. Il y a tellement d'endroits où je pourrais pas aller, moi, en tant que pasteur. Non seulement parce que je peux pas me démultiplier, mais aussi parce que il y a tellement d'endroits où j'aurais pas les capacités d'aller. Et Dieu vous a appointé, Dieu t'a appointé pour cela. Dieu y a malgré tout implanté des croyants, des chrétiens, pour faire briller sa lumière au milieu des ténèbres, à ton lieu de travail, dans ton quartier, lorsque tu voyages, à côté de qui t'es assis dans l'avion ou dans le train, à ton club de sport, dans ta classe aux études, ou avec tes mamans à l'arrêt de bus ou à la sortie de l'école, tu es à ta place. Peu importe qui tu es ce matin. Peu importe qui tu es ce matin. Ça dépend pas de ton arrière-plan, de la couleur de ta peau, de ton statut social. Dieu désire t'utiliser là où il t'a placé pour faire une différence. Pas par tes propres forces, mais par la vie de Dieu qui est en toi. Esther était une jeune orpheline. Mais quelle héroïne! Sa vie avait dû être tellement triste et brisée lorsque ses parents sont morts. Et pourtant, elle était un instrument tellement puissant entre les mains de Dieu pour sauver un peuple de la perdition. Si Dieu l'a fait avec elle, personne ne peut dire ce matin que Dieu peut rien faire avec toi. Même si ta vie était chaotique, même si elle était perturbée, même si elle était rocailleuse, sa main invisible travaille avec nos vies. Alléluia. Et désire nous utiliser pour faire briller son nom à travers nous. Amen. On va incliner la tête, j'ai terminé ici. Qu'est-ce que c'était bien? Ah là là. La parole de Dieu. Seigneur, je te prie ce matin que tu nous aides, premièrement, dans chacune de nos vies, à tenir ferme pour toi, Seigneur. Là où on est, à ne pas baisser nos standards. Que s'il y a des tentations, que s'il y a des combats, que s'il y a des peurs ou des craintes, Seigneur, qu'on ne baisse pas nos standards. Mais qu'on ait cette foi. Parce que sans la foi, il est impossible de te plaire. On l'a lu tout à l'heure. Je prie, Seigneur, que tu augmentes notre foi, Seigneur. Pour qu'on ait cette conviction dans nos vies, que face aux circonstances dans lesquelles nous vivons, tes standards à toi, c'est les bons standards. Que tes standards à toi, c'est les bons standards. Même si le monde nous en propose d'autres, les tiens, c'est les bons. Et que quoi qu'il arrive, tu tiens nos vies entre tes mains, Seigneur. Et que tu auras une issue favorable à chacune de nos situations. Alléluia. Je proclame cela dans le nom de Jésus. Et je prie d'autre part, Seigneur, que tu puisses ancrer cette conviction de notre entendement ce matin, que tu peux et que tu veux nous utiliser là où tu nous as placés, avec qui on est. Pas dans des grandes envolées pour faire les fiers comme Aman qui bombait le torse, parce que nous, on est enfants de Dieu, on est la race élue. Non. Pas du tout. Avec humilité. Avec un désir de te voir agir. Un désir de te voir faire la différence, parce qu'on sait que tu es en nous. Alléluia. Je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses enraciner bien profond cette pensée que tu es en nous et que parce que tu es en nous, tu peux faire la différence là où on est. Ce n'est pas par nous-mêmes. Aucun mérite, aucune capacité par nous-mêmes. Mais toi, tu peux faire la différence. Je prie que tu bénisses tous mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Frères et sœurs de l'Église, les personnes qui sont fraîchement ici, ceux qui nous visitent, je prie, Seigneur, que tu leur fasses du bien dans leur vie, là où ils sont personnellement, dans le nom de Jésus. Amen.